Quatrième partie. Chapitre 1. Dans la grande chambre boisée du rez-de-chaussée, toute la famille réunie attendait. Le grand-père avait dit à Mademoiselle Célanie et au cousin Clovis : Je lui ai permis de parler à Zoé ce soir. Nous en saurons le long et le court avant d'aller dormir. À moins que Mademoiselle sa sœur ne mette encore des bâtons dans les roues. Avait-il ajouté avec aigreur, car il s'était mis dans l'esprit qu'Adrienne faisait son possible pour le contrecarrer. Au moment même où il disait cela, Adrienne était entrée hors d'haleine. Elle venait de monter en courant l'avenue, laissant son frère avec Zoé, et, passablement émue, cherchant une âme à qui parler, elle avait vu par la porte entr'ouverte filtrer un filet de lumière et s'était étourdiment jetée au beau milieu du conseil de famille. Sur la grande table de noyer brûlait la lampe de tous les soirs, celle qui avait un haut pied en forme d'obélisque égyptien, mais deux autres lampes, de belles urnes de bronze, qu'on allumait très rarement, étaient posées sur la cheminée, reflétant leurs tulipes de verre dépolies dans la glace verdâtre. Cet éclat et une unicité de lumière étonna Adrienne, qui resta sur le seuil, un peu intimidée aussi par la solennité des attitudes. M. Romanel se tenait parfaitement droit et immobile dans son fauteuil, ayant près de lui Mademoiselle Célanie, très droite également, mais palpitante d'émotion, et certaine qu'une catastrophe arriverait à la dernière minute. De l'autre côté était assis M. Clovis, qui cessait de balancer son pied chaque fois qu'il y pensait. Flore, debout un peu en arrière, les bras croisés, l'air mécontent, si elle avait formulé son opinion sur l'événement, aurait dit « C'est un coup monté !» et eût été fort embarrassée de définir ce qu'elle entendait par là. « Où est Zoé ?» demanda M. Romanel d'un ton sévère quand il aperçut Adrienne. « Au bas du jardin, avec Jules, je viens de les quitter, » répondit-elle. Elle sentait autour d'elle l'air vibré de cette excitation muette qui émanait de chacun. Un mot de plus, une allusion discrète ou seulement un sourire les auraient tous mis à l'aise, mais Adrienne, froissée du ton hostile que M. Romanel prenait toujours quand il lui parlait, se dirigea sans rien ajouter vers un coin de la chambre où elle s'assit. « J'ai bien le droit d'être ici et d'attendre avec eux puisqu'il s'agit de mon frère, » pensa-t-elle. M. Clovis, poliment, changea de place pour ne pas tourner le dos à Adrienne et lui adressa un sourire avec un petit signe de tête. Personne ne rompit le silence jusqu'au moment où des pas inégaux, les uns glissants et rapides, les autres plus allongés, plus fermes, retentirent sous la voûte sonore du passage. « Les voici !» dit M. Romanel. Mademoiselle Célanie appuya la main sur son cœur. La pantoufle verte de M. Clovis battit l'air avec agitation. Adrienne pensa, « Puisqu'ils reviennent ensemble, c'est que Zoé a dit oui. » Et Zoé parut, rose et tremblante comme une fleur, suspendue au bras de Jules, qui venait d'ouvrir la porte toute grande. Ils s'avancèrent jusqu'au fauteuil du grand-père, Zoé baissait les yeux, intimidée par cette cérémonie, mais quand, du coin de ses paupières, elle aperçut Adrienne au fond de la pièce, brusquement, elle quitta le bras de Jules et courut se suspendre au cou de son ami. « Mais Zoé !» murmura son cousin qui la rejoignit précipitamment. « Ceci n'est pas correct, pas correct du tout. Nous devons tout d'abord présenter nos respects à votre grand-père. « Allez-y, allez-y » répondit-elle en fourrant sa petite tête confuse sous le menton d'Adrienne. « Pourquoi tant de cérémonies ? Et Flore qui se tient là comme un gendarme ?» Cependant, Jules parvint à ressaisir sa main et amena devant M. Romanel la rougissante fiancée. « Ma chère petite, mes chers enfants, » dit le vieillard en leur pressant les mains. Il ne put en dire davantage. Comme le matin, une émotion lui coupa la voix et ses yeux se remplirent de larmes. Alors, Mademoiselle Célanie cacha sa figure dans son mouchoir et Flore poussa un énorme sanglot. Zoé, consternée, se demandait auquel courir. Elle embrassa son grand-père, sa tante, Flore, quand par bonheur, quelqu'un fit diversion en s'avisant que le fiancé n'avait pas soupé. Son couvert était mis dans la petite pièce voisine où bien vite on l'envoya réparer ses forces, mais on laissa la porte ouverte et à chaque instant, M. Romanel, qui ne cessait de s'agiter, disait à Zoé Mais va donc voir s'il a tout ce qu'il lui faut. Le fricando doit être froid. Demande-lui s'il veut qu'on lui fasse une omelette. » Zoé rougissait un peu et allongeait sa petite tête vers la porte. « Jules, voulez-vous qu'on vous fasse une omelette ?»« Vas-y donc toi-même, » s'écriait le grand-père. « Est-ce une façon de faire les honneurs ?» Mais Zoé n'avait garde de se déranger. Elle s'était retirée tout près de son bon cousin Clovis et répondait, moitié riant, moitié confuse, à ses questions. M. Clovis avait eu, lui aussi, une grosse émotion en face de ce jeune bonheur encore si fragile, auquel il ne fallait pas toucher trop fort. « pauvres enfants !» se répétait-il, attendri. « Puisse la ville être sans tempête !»« Ah, certes, ce qu'il faudra faire pour lancer leur petite barque, que je le ferai de grand cœur !»« Es-tu contente au moins, Zosette ?» lui demanda-t-il en caressant la petite main qui reposait entre les deux siennes. « Très contente, maintenant que le premier mauvais moment est passé !» répondit-elle de son petit air sage, comme une fillette à qui l'on aurait arraché une dent. « Il y a donc eu un mauvais moment ?» fit le cousin avec inquiétude. « Ah, vous le pensez bien, une telle surprise ! J'ai été indécise au moins 10 minutes !»« Mais tu as dit oui, c'est donc quelque chose a fait pencher la balance, » dit M. Clovis, qui se reprocha au même instant d'être abominablement indélicat, mais il aurait donné beaucoup pour sonder jusqu'au fond le cœur de cette petite fiancée. Tu sais que tu étais libre, parfaitement libre. Jules a très bien parlé, il m'a fait un tableau de son caractère. Il dit qu'il me rendra parfaitement heureuse. Et c'est vrai qu'il est très aimable, mon cousin Jules. Nous nous entendons à merveille. Nous ne nous sommes jamais querellés. Qu'une seule fois, fit-elle en se reprenant. Ah, vous vous êtes querellés ? « Oui, tout à l'heure, » murmura-t-elle en baissant la tête, tandis qu'une flamme empourprait ses joues. « Ils ont déjà leur petit secret, c'est bon signe, » pensa M. Clovis. « On n'aura pas mis les cerises sur la table, » disait M. Romanel d'un ton mécontent. « Ce pauvre Jules fait, j'en suis sûr, le plus mauvais souper de sa vie. Dérange-toi donc, Zoé !»« J'y vais, » dit Flore, quittant son tricot, qu'elle avait pris comme si ce jour eût été un jour ordinaire. « Il faudra qu'elle lui cire ses bottes, peut-être » murmurait-elle en se dirigeant vers la petite pièce où Jules achevait en hâte son souper. « A-t-on jamais vu faire tant d'embarras ? Pour moi, rien ne m'ôtera de la tête que c'est un coup monté. »« Cerise, monsieur » dit-elle avec une certaine brusquerie en lui passant une assiette. Jules tressaillit. « Voyez-vous ça ? On dirait qu'il a mauvaise conscience !» pensa la vieille servante qui fronça le sourcil. Et plus tard, quand on se sépara, elle trouva moyen, dans la confusion des bonsoirs, d'attraper Zoé dans un coin. « Es-tu contente ? Là, voyons, franchement » dit-elle en lui mettant sous le menton son doigt rugueux comme une râpe. « Contente ? Mais assurément, je le suis !» répondit Zoé étonnée. « Que vous êtes singulière, Flore. Pourquoi me regardez-vous ainsi ?»« Parce que je n'en crois pas un mot, tiens, et tu ferais beaucoup mieux de me dire la vérité. » Zoé fronça ses fins sourcils noirs, qui étaient le seul trait accentué de sa petite figure délicate et dont la ligne pouvait se faire étonnamment sévère. Elle allait répondre avec quelque vivacité quand elle vit qu'Adrienne sortait de la chambre. Alors, esquivant d'un mouvement rapide la main de la vieille servante, elle courut après sa cousine et la rejoignit à moitié l'escalier. « Bonsoir, Jules, bonsoir » cria-t-elle à son cousin en passant près de lui comme une flèche. Elle ne songeait qu'à rattraper Adrienne, dont elle enlaça aussitôt la taille de son bras. Alors, un peu penchées l'une vers l'autre, elles montèrent lentement, avec un petit arrêt sur chaque marche, et tenant leur bougeoir fort incliné, comme font les jeunes filles quand elles sont engagées dans une causette intime. Pas une fois, Zoé ne tourna la tête vers Jules, qui en conçut un juste mécontentement. « J'entre chez toi, dis !» fit Zoé en arrivant au palier du premier étage. « Il est trop tôt pour dormir. D'ailleurs, je suis excitée. » « On ne s'en douterait pas, » dit Adrienne. « C'est comme cela, pourtant. On m'a dit tant de choses ce soir. » Elle alla poser sa bougie sur la cheminée, puis s'assit au bord du lit, tirant distraitement le coin du beau couvre-pied de soie cramoisie. Adrienne s'assit à côté d'elle, lui mit son bras autour du cou, puis l'embrassa sur le front, longuement, tendrement, presque comme une mère l'eût fait. « Eh bien, mignonne, es-tu contente ?» lui demanda-t-elle après une pause. « Toi aussi ?» cria Zoé. « Voilà la troisième fois qu'on me demande cela. Mais quelle mine faut-il avoir, mais que faut-il que je dise pour que chacun sache que je suis contente ?»« Oui, je suis contente, très contente, prodigieusement contente. Et maintenant, que quelqu'un monte sur le toit pour le crier à tout le pays. » Là-dessus, elle se jeta sur l'épaule d'Adrienne et fondit en larmes. « Tu es énervée, ma pauvrette !» dit Adrienne gravement. « Non, mais je sens, vois-tu, que je ne saurais jamais dire et faire ce qu'il faut. Je ne ressemble à personne, » sanglota Zoé. « Je suis singulière, j'ai trop vécu avec de vieilles gens. » « Tu es la plus gentille petite souris du monde !» dit Adrienne en l'embrassant. « Oh, tu es bonne !» cria Zoé en la serrant passionnément dans ses bras. « Toi et mon cousin Clovis, vous êtes ce que j'aime le plus. »« Et Jules ?» demanda Adrienne en riant. « Jules ? Oh, lui, c'est différent !»« Je l'espère bien !» fit d'un ton un peu sec la sœur du fiancé. « Si tu étais à ma place, reprit Zoé, tu saurais exactement quelle figure tu dois faire et tout ce qu'il faut dire. Adrienne, donne-moi une leçon, je t'en prie. » « Moi, dit Adrienne, enfonçant son coude dans le grand oreiller à volant brodé, si un jeune et bel inconnu que le sort a eu l'obligeance de mettre de côté pour moi avait débarqué ce soir... « Mais, Adrienne, ce n'est pas un jeune et bel inconnu, protesta Zoé. » Et avait incontinent demandé ma main, apportant la preuve qu'il possède des moyens d'existence réguliers, qui est tout ce que requiert de lui ma prosaïque famille. Je ne sais plus où j'en étais de ma phrase, mais supposons que chacun ait dit oui d'un bel accord. Personne ne me demanderait si je suis contente, cela se verrait, je t'en réponds. Toi d'abord, je t'embrasserai à t'étouffer, cela me soulagerait déjà un peu. Je dirais des folies, avec une envie tout le temps de pleurer d'émerveillement, car on n'y croit qu'à moitié à ces choses-là, quand on les a souhaitées et qu'elles arrivent. Qu'on soit fait l'un pour l'autre, là, depuis des années, sans le savoir, et que tout doucement, le bon sort vous amène par la main et que tout s'arrange, et que, parmi tant de jeunes gens et de jeunes filles dont le monde est plein, on ait marché tout droit, sans se détourner, à la rencontre l'un de l'autre, voilà qui semble incroyable. Le matin, quand je me réveillerai, je serai obligée de boire un grand verre d'eau avant d'y croire. » Le ton de plaisanterie qu'Adrienne avait pris d'abord s'était changé peu à peu en une voix basse et rapide, étrangement concentrée. Ce n'était plus à Zoé qu'elle parlait, c'était à elle-même, et l'on eût dit qu'elle se grisait de ses paroles. Zoé écoutait, ouvrant de grands yeux et s'appliquant de toutes ses forces à retenir chaque mot. « Pleurer d'émerveillement, je ne le pourrais pas, » fit-elle avec un sentiment pénible de n'être pas à la hauteur de la situation. « Conseille-moi autre chose. Faut-il que je sois tout le temps à m'occuper de lui, comme grand-papa le veut ?»« C'est ton devoir le plus élémentaire, » répondit Adrienne, quittant avec effort une vision qu'elle semblait avoir et reprenant son air habituel de vivacité un peu railleuse. À ta place, je deviendrai sentimentale, j'aurai un album où je mettrai des violettes séchées et des dates et toutes sortes de souvenirs. Écoute, fit Zoé l'interrompant, si, un soir, en se promenant, il voulait t'embrasser, ne me regarde pas, je sens que je deviens toute rouge. S'il te faisait cela, tu te fâcherais, n'est-ce pas ? Assurément, répondit Adrienne très grave. « Et si tu lui pardonnais, ce serait à la condition qu'il ne recommençât jamais ?»« À cette seule condition. »« Et il ose prétendre que sa conduite était très correcte, » fit Zoé avec un petit retour d'indignation. « Je suis bien aise de voir que tu partages mon sentiment là-dessus. Bonne nuit, chérie !» Le lendemain matin, Zoé n'eut pas besoin de boire un grand verre d'eau pour croire à la réalité des événements de la veille, Elle en avait été oppressée toute la nuit et se réveilla avec la conscience d'une vie changée où rien jamais n'aurait plus la même couleur. Cependant, elle était résolue à faire son devoir. Elle s'habilla promptement et descendit pour dire bonjour à Jules avant son départ, qui était toujours matinal. Elle mit le couvert pour son déjeuner, choisit les radis les plus roses et les plus frais, qu'elle arrangea dans une coquille de cristal et remplaça par un joli ruban son rond de serviette, qui était un vieil anneau de bois peu élégant. Frêle et mignonne dans sa petite robe de toile bleue, et très sérieuse, l'air préoccupé, elle alla à la rencontre de Jules quand elle l'entendit descendre l'escalier. Elle désirait ne rien négliger de ce qu'il pouvait attendre d'elle. Il parut surpris et enchanté de la voir. Ses petits airs de maîtresse de maison affairée le ravirent, il loua les radis, le café, il devint lyrique au sujet du ruban et déclara qu'il le garderait toute sa vie comme un précieux souvenir. « Ah ! Fit Zoé, ceci me rappelle une chose. Vous seriez bien aimable de me rapporter de la ville un petit album. Adrienne dit que j'en aurai besoin pour y mettre des fleurs séchées et d'autres souvenirs. » « Je serai trop heureux de me charger de vos commissions, » répondit-il, ouvrant son agenda et tirant son crayon. « La couleur. »« Oh, peu importe, gris si vous voulez. »« Vous aimez le gris, c'est une teinte très comme il faut, » fit-il d'un air d'approbation. Il était parfaitement satisfait. Il aimait les petits radis roses, le beurre frais, la conversation modérée et cette jolie robe bleue d'une teinte douce, sous laquelle une poitrine de jeune fille battait à petits coups très égaux. « Me ferez-vous le plaisir de m'accompagner dans la cour ? » fit-il en se levant. « Je vais dire qu'on selle mon cheval. » Elle le suivit, heureuse de respirer l'air. Au bout du passage, sur le seuil de la porte cintrée, il lui offrit son bras qu'elle n'osa refuser et ils traversèrent ensemble la cour. Samuel, du fond de la grange, où il déchargeait un char de foin avec son frère Georges, les vit passer. Il devint un peu pâle, s'arrêta une minute, puis dit tranquillement à Georges, qui s'était perché sur le haut du tas, « Descends vite, Monsieur Morier te cherche pour lui seller son cheval. » « Oh !» fit Georges, qui, sans savoir pourquoi, par une intuition obscure d'amour fraternel, éprouvait de l'antipathie contre Jules Morier. « Il peut attendre. Quand on ne sait pas se servir soi-même, il ne faut pas être pressé. » Et les deux frères continuèrent leur besogne, Georges sur le tas, saisissant à grandes brassées les paquets de foin odorants et courts, une fine fanée de montagne que Samuel lui jetait au bout de sa fourche et dont les brins légers s'éparpillaient en l'air avec un exquis parfum de thé. Les mouvements réguliers de ces deux travailleurs d'égal courage alternait comme un rythme, un beau rythme souple et vigoureux. Tandis que Georges étendait le foin et l'égalisait sans creux ni renflure, Samuel enfonçait sa fourche aux dents de corne dans la masse écroulée qui, du char, avait roulé sur le plancher de la grange. Georges se penchait alors au bord du tas et Samuel redressa son jeune dos souple comme la courbure d'un arc qui se détend, jetait d'une volée la lourde charge à son frère. Des brindilles redescendaient sur son visage levé, qu'il essuyait d'un coup de manche, et si Georges s'était piqué les mains au chardon, il frottait ses paumes avec un mouvement d'impatience sur son pantalon de grosse mylène brune. Tout à coup, le rythme fut interrompu. Georges ne vit pas arriver la donnée à la seconde précise où il attendait. Étonné, il se pencha pour regarder en bas. Samuel était immobile, la tête penchée, le front appuyé sur le manche de sa fourche. Il ne répondit pas quand son frère l'appela. D'un saut, Georges fut sur le plancher. « Qu'as-tu ? » s'écria-t-il en se penchant pour voir son visage. Samuel releva la tête. Il était pâle comme la mort sous son hâle de paysan. Quand il essaya de parler, ses lèvres tremblèrent, sa gorge se serra et ce fut un son étrange qui en sortit. Alors, de honte et de colère de ne pouvoir se dominer, il donna un grand coup de poing sur l'échelle du char, puis il se tourna vers Georges, lui laissa voir en plein sa figure bouleversée. Et, de nouveau, il fit un effort pour dire quelque chose, pour expliquer, mais un grand sanglot déchira le mot qui venait à ses lèvres. Consterné, Georges se détourna lentement. Il lui semblait qu'arrêter les yeux sur son frère serait une lâche indiscrétion. Le silence fut très long. Samuel s'en alla vers la fenêtre et y resta bien des minutes, debout, les lèvres serrées, luttant désespérément contre le tumulte physique de tout son être. De ses doigts rudement noués autour de ses poignets, il se faisait mal pour comprimer les battements de son jeune sang impétueux qui montait en révolte. Il aurait voulu serrer de même son cœur dans une étreinte sans pitié. Silencieusement, par un effort de sa volonté, il se matait. Il sentait qu'il y avait de la dignité et du courage à dominer au moins le trouble extérieur. Ce que Georges en avait vu était déjà trop. Le père Voumard, s'étant trouvé à la porte de l'écurie, avait scellé lui-même le cheval de Jules. Au moment où le jeune homme mettait le pied à l'étrier, la fermière traversa la cour. « Puisque les voilà tous deux, chuchota Zoé à son cousin, annonçons-leur la nouvelle, ce sera fait. » Jules, aussitôt, avec un empressement poli, ramena sur la dalle son talon qui déjà s'enlevait en l'air, et passant sous son bras la main de Zoé, il se dirigea vers Madame Voumard, à laquelle il fit un grand salut. « Nous sommes fiancés, » dit Zoé en rougissant, car il lui semblait que les yeux de la petite femme se fixaient sur elle, avec une acuité qui la transperçait. « C'est arrivé hier soir et nous n'avons pas voulu tarder à vous l'annoncer. Je vous remercie et vous souhaite bien du bonheur, » dit la fermière avec quelque sécheresse, en redressant sa taille plate et rassemblant dans sa main gauche les plis de son tablier plein de grains pour tendre la droite à Zoé et à Jules. Mais elle ne leur donna à serrer que les phalanges de quatre doigts très raides qu'elle retira sans les avoir seulement pliés, si bien que Zoé eut l'impression d'avoir échangé une poignée de main avec une planche. Le fermier fut plus cordial. « En voilà un d'événement, » fit-il avec son bon large sourire. « Il doit y avoir longtemps que chose pareille n'est arrivée dans la maison. Monsieur Romanel en sera rajeuni. » Zoé se tourna de nouveau vers Madame Voumard pour faire une timide tentative de conciliation. Elle ne pouvait souffrir qu'on fût mécontent d'elle, et Madame Voumard était mécontente, cela était écrit sur elle, depuis la plante de ses pieds carrément plantée sur les dalles, jusqu'au pli sévère de son front, en passant par l'angle aigu de ses coudes, qu'elle serrait contre elle, debout toute droite à côté de son mari, avec un air de dire « Quand vous en aurez assez de cette conversation, je serai bien aise pour ma part de retourner à mes affaires. » « Nous ne savons encore à quelle époque nous nous marierons, » dit Zoé, rougissant davantage. « Mais nous espérons bien que vous serez à la noce, ainsi que Samuel. » Madame Voumard leva brusquement le menton, ce qui fit saillir les tendons de son cou maigre et donna à cette bonne petite poule grise l'air d'une très méchante couveuse sur le point de foncer un coup de bec. « Merci bien, » fit-elle, « vous me mettez mal à l'aise, mademoiselle. Comme dit le proverbe, trop d'honneur fait honte. » Déconcertée, Zoé regarda alternativement le père Voumard et Jules, puis voyant que, selon la coutume de leur sexe en cette sorte de rencontre, ils gardaient l'un et l'autre un silence prudent, elle quitta brusquement le bras de Jules, abandonnant le jeune homme à son inspiration pour terminer l'entrevue, et elle rentra dans la maison. Cependant, elle était à sa fenêtre quand un cavalier passa sur la route au bas du jardin et elle lui envoya de la main un petit signe amical. « Qu'est-ce qui te prend ?» fit le père Voumard à sa femme qui lançait à droite et à gauche la provende à ses poules avec des gestes brusques et une mine presque tragique. « Je ne t'ai jamais vu figure pareille. Tu as l'air d'une vraie tiope. » Madame Voumard ne répondit rien, ce qui faisait honneur à ses principes. Elle vida son tablier, puis le secoua, jusqu'à ce que la moindre parcelle de bourre en fût détachée. Évidemment, elle différait de s'éloigner, elle avait quelque chose à dire. Elle le dit. « Joli mariage » fit-elle en haussant les épaules. « Très joli, qu'as-tu à y redire ?» demanda son mari étonné. « Oh, moi, ça ne me regarde pas. Mais on me dirait que c'est un complot de la demoiselle Adrienne, que ça ne me surprendrait pas. » « Elle fait ce qu'elle veut de mademoiselle Zoé. Elle lui ferait avaler son frère avec une cuillère. » Monsieur Jules est un jeune homme très convenable. Il a une bonne profession, » dit le fermier de son ton d'équité calme. « C'est lui qui le dit, et qui veux-tu qu'il le contredise ici? Avec tout ça, trouves-tu mademoiselle Zoé bien rayonnante ?»« Non, je ne peux pas dire qu'elle soit bien rayonnante. Elle s'en cache, elle est timide. » Elle n'a pas grand mal à s'en cacher, crois-moi seulement. Être de la noce, si elle se fait leur noce, on y pleurera plus qu'on y rira. « Veux-tu bien te taire ?» cria son mari. « Tâche encore de leur porter malheur. » La journée qui commençait de cette façon désagréable s'écoula morose et grise et Mademoiselle Célanie ne fut pas seule à faire envoler des soupirs sous le grand toit de la maison grise. Il se trouva qu'Adrienne Maurier avait la migraine. Peut-être les émotions de la veille en étaient-elles cause. Quand Zoé, après le départ de Jules, entra chez son amie, elle la vit dans l'ombre de ses rideaux, ayant très mauvaise mine, ses cheveux blonds mouillés et collés aux tempes par des lotions d'eau froide qu'elle s'était faites, et suppliant avec impatience qu'on la laissât seule, refusant les sels volatiles, le vinaigre aromatique, déclarant qu'elle ne croyait qu'aux perles de caféine et qu'elle venait d'en prendre. Zoé, bien à contre-cœur, la quitta quand elle vit que sa présence, loin d'être utile à Adrienne, risquait fort de l'exaspérer. « Mais au moins, promets-moi de sonner si tu as besoin de quelque chose. »« Oui, oui, tout ce que tu voudras. Va-t'en, Zoé. Si tu connaissais la hideuse migraine, gémit Adrienne, tu saurais qu'elle nous fait détester la vue de nos semblables. » Zoé s'en alla donc et tout le matin erra, esselée, dans les corridors et dans le jardin, ne sachant que faire d'elle-même. Elle essaya de son aiguille, mais sans le babil animé d'Adrienne, la broderie lui parut insipide. 20 fois, elle monta au premier étage, prêtant l'oreille derrière la porte fermée et murmurant « Comment vas-tu, ma pauvre Adrienne ?» Les hirondelles seules lui répondaient, bavardant sous l'avant-toit, d'où pendait une draperie de vignes vierges ensoleillées, faisant leur ménage et passant comme des traits aigus devant la baie ouverte de la grande fenêtre qui éclairait le palier. Dans la cuisine, on faisait la gelée de groseille. Zoé manquait à tous ses devoirs en n'assistant pas à cette opération, mais elle plaida qu'il lui fallait rester à portée d'Adrienne et Mademoiselle Célanie, indulgente, n'insista pas. « Ne lui gâtons pas les jours dorés des fiançailles, » dit-elle à Flore. « Laissons-la rêver. » « À qui vous imaginez-vous qu'elle rêve ?» demanda Flore brusquement. « À qui ? Flore, vous me scandalisez. » « Prenez garde, vous allez répandre du jus. » La vieille servante, enlevant du feu la bassine pleine de jus couleur de rubis, avait eu un mouvement vif qui faillit lancer une petite cascade sur Mademoiselle Célanie. « Monsieur Romanel a fait du mauvais ouvrage qu'il faudra défaire, » dit cette sibylle moderne en hochant la tête quand elle eut posé sur un trépied la bassine d'où montait un chaud arôme. Ni les interrogations plaintives, ni l'air outragé de sa maîtresse ne purent lui en arracher davantage. Lasse d'errer, Zoé finit par s'asseoir sur le large rebord de la fenêtre du palier, balançant sa pantoufle au bout de son petit pied qui pendait dans le vide et jouant d'un air distrait avec un volume de ses chers mousquetaires. Elle ne lisait pas, elle entr'ouvrait le petit livre en forme de toit et le reposait sur le rebord de pierre, attirant autour les souples brins de vigne vierge qui flottaient dans l'embrasure. Cela représentait une tente, un pavillon, quelque romantique campement dans un pays inconnu. Et Zoé se racontait à elle-même que, sous cet abri léger, dans la solitude d'une forêt enchantée, on vivait mystérieusement rien que d'eux. C'était là, sans doute, quelque réminiscence de l'Atala, semée de pains à cacheter, que sa tante lui avait fait lire. Les yeux pleins de la blonde lumière de juillet, un peu renversée pour voir là-bas l'air saturé de chaleur vibrer comme un cristal, elle regardait sous l'ombre bleue de l'avant-toit le riche fouillis des feuilles et des vrilles tendres d'un vert doré qui se balançait. Le rapide coup d'aile d'une hirondelle, en l'effleurant presque, lui faisait tout à coup tressaillir les paupières, mais elle ne remuait pas un doigt et s'abandonnait à une délicieuse langueur où passaient vaguement des visions de fleurs merveilleuses. Vivre dans un pays où il ferait toujours chaud, sous cette tente d'un joli gris rose, avec Jules ? Oh non, pas avec Jules ! Zoé rit à demi-voix, tant Jules faisait une drôle de figure dans le pays de fantaisie. Il avait de trop belles cravates et des chapeaux gris à bords étroits et... il portait de la flanelle. Zoé rougit comme elle l'avait fait le jour où une indiscrétion de Flore lui avait révélé ce détail intime. Au même instant, elle entendit un pas dans l'escalier et elle tourna la tête d'un petit mouvement indolent. Ses yeux, pleins d'un éblouissement, ne distinguèrent rien d'abord dans l'ombre tranquille du profond corridor, puis ils reconnurent une silhouette. « C'est vous ? Bonjour, Samuel ! Ne faites pas de bruit, ma cousine a la migraine !» dit Zoé en mettant un doigt sur ses lèvres. Elle s'étonnait un peu de le voir dans la maison où on ne le rencontrait guère. Renfilant bien vite sa pantoufle et s'assurant d'un prompt coup d'œil que sa robe tombait comme il fallait, elle prit sur son perchoir une pose plus correcte, tandis que Samuel, l'air préoccupé et baissant la tête, faisait mine de passer sans rien dire que « bonjour ».« Où allez-vous donc comme cela ? » demanda-t-elle à demi-voix. « Je monte au grenier. Notre domestique part ce soir, il faut lui descendre sa malle. Il a le pas lourd, c'est pourquoi j'y vais, à cause de M. Romanel. » Samuel parlait d'une manière un peu saccadée, détournant la tête et étudiant le pilastre de bois peint en gris qui terminait la rampe de l'escalier. Zoé, elle, sortie de sa somnolence, avait envie de causer. « Votre domestique part ? » fit-elle d'un ton de sympathie. « C'est cela qui doit ne pas vous aller au milieu des foins. »« Son père est malade, » répondit brièvement Samuel, qui monta deux ou trois marches. « Vous êtes pressé ?» fit Zoé d'une voix presque plaintive. « Vous n'imaginez pas à quel point je m'ennuie depuis ce matin que je n'ai pas vu Adrienne. »« Pourtant, » fit-il en redescendant d'un degré, « vous vous êtes passé longtemps de mademoiselle votre cousine. » « Oui, sans doute, mais je ne savais pas alors que je m'ennuyais, c'était mon état normal, ou comment dit-on cela ? Je vois maintenant la différence. »« Un grand gain que vous avez fait là, » murmura-t-il. « Miséricorde, Samuel, est-ce que vous êtes de mauvaise humeur comme... Elle allait dire comme votre mère, mais elle s'arrêta à temps. Tout à coup, à un mouvement trop brusque qu'elle fit, le petit volume toujours posé en toit sur le rebord faillit être précipité dans le jardin. Elle le rattrapa par un coin de la couverture, le ferma, le lissa, puis dit subitement « Je vous avais promis Monte-Cristo, n'est-ce pas ? Je l'ai oublié. Voulez-vous que j'aille le chercher tout de suite ?»« Merci, je n'aurai pas le temps de lire. » « C'est vrai, il y a les foins et puis il y aura les moissons. Je vous le prêterai l'hiver prochain. » Elle s'interrompit avec un petit soubresaut presque effrayé. L'hiver prochain ? Où serait-elle l'hiver prochain ? Mademoiselle Célanie lui avait dit en déjeunant que M. Romanel était fort pressé que le mariage se fît. Il était nerveux depuis quelques semaines, il ne fallait pas le contrarier, l'impatience l'usait. « Oh, Samuel ! » s'écria Zoé, « je ne serai sans doute plus à la Maison Grise l'hiver prochain !» Sa voix trembla. D'un geste d'enfant, elle passa le dos de sa main sur ses yeux, tout à coup gros de larmes. « Vous savez la nouvelle ? Vous la savez déjà ? Qui vous l'a dite ? Votre mère ?» Elle parlait précipitamment, un peu gênée du silence qu'il gardait. Elle ne distinguait pas très nettement sa figure dans l'ombre de ce recoin d'escalier, mais elle sentait ses yeux sur elle. « Eh bien, » fit-elle au bout d'un instant, « vous ne me félicitez pas ?» « Pourquoi vous féliciterai-je » dit-il lentement. Elle demeura interdite. « Pourquoi, en effet ?»« Mais je crois que c'est l'usage, » murmura-t-elle, baissant les yeux. Avant qu'elle les eût relevés, Samuel était devant elle, tout près, dans l'embrasure. « Vous êtes tout à fait heureuse, n'est-ce pas ? » dit-il presque à voix basse. Il y avait tant de sérieux et d'anxiété dans son regard que Zoé s'interrogea avant de répondre. « Oui, je suis tout à fait heureuse, » fit-elle après un grand moment de réflexion. « C'est-à-dire, je le serais si Adrienne n'avait pas la migraine. »« Vous êtes plus heureuse qu'avant. » « Oh » fit-elle avec un petit rire embarrassé, « c'est difficile à dire, cela ne se pèse pas comme du sucre. » Samuel sentait que pour elle, pour lui, il aurait dû s'en aller et qu'à tout autre qu'à cette fillette inexpérimentée, son insistance eût paru étrange. Mais il n'avait jamais pu la regarder sans s'attendrir, parce que derrière elle, toute menue et frêle, il croyait voir, sans qu'il eût pu l'exprimer, cette grande brutale, la vie, qui malmène et soufflette et violente les faibles. Zoé avait choisi son défenseur, ce jeune homme bien élevé, qui ne disait jamais un mot plus haut que l'autre et qui ôtait si élégamment son chapeau. Samuel éprouvait un sauvage besoin de se faire souffrir, car on s'imagine toujours qu'un moment vient où l'on a souffert assez, où l'amputation est faite, et qu'alors c'est fini, qu'on ne sent plus. « C'est lui qu'il faudrait féliciter, » dit-il tranquillement, car il n'avait pas en cette minute de grand soulèvement d'amertume. Il n'avait que l'impression grise d'une tristesse qui l'entourait comme un brouillard. « Lui, mon cousin, ce n'est pas aimable pour ce pauvre Jules, ce que vous dites là. » « Et pourtant, » fit-elle avec une mine songeuse, « c'est bien juste, c'est bien juste. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela, vous pouvez le croire, depuis hier que la chose s'est faite. Seule toute la matinée dans ce corridor, j'ai creusé, et il me semble que c'est un drôle d'arrangement que le mariage. Équitable ? Oh, pas du tout. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, par exemple ? Je quitte la maison grise, mon grand-papa, mon cher cousin Clovis, pour m'en aller dans le vaste monde avec quelqu'un qui ne m'est rien du tout en définitive. « Mais pourquoi le faites-vous ? » s'écria Samuel. « Ah, pourquoi ? Je vous le demande, » fit Zoé penchant la tête. « Parce que c'est la coutume, je suppose. Parce que ce sont les messieurs qui arrangent les choses. » Elle disait toujours « les messieurs », sa tante Célanie lui ayant enseigné qu'il est de la dernière inconvenance de dire « les hommes », sauf dans le catéchisme. « Écoutez, » dit Samuel. Après ce mot, il s'arrêta comme pour reprendre haleine. Je vais vous dire pourquoi l'on quitte tout, père et mère et la maison, pour s'en aller l'un avec l'autre, mari et femme, jusqu'au bout du monde, et l'on est plus heureux seuls ensemble que dans la plus belle compagnie. Zoé pensa à la petite tante Rose, perdue dans la forêt enchantée. Ses yeux sourirent. « Oui, je sais, » murmura-t-elle. C'est parce qu'on s'aime l'un l'autre plus que tout et qu'on ne donnerait cela pour rien ? Non, répéta-t-il avec force, pour rien de ce qui est sur la terre. Il la regardait avec des yeux qu'elle ne reconnut pas, des yeux tristes et ardents où l'on aurait pu lire quelque chose, mais Zoé ne savait pas lire cette écriture-là. Elle poussa un grand soupir et regarda dans le jardin plein de soleil, songeant vaguement au temps où, toute petite, elle s'asseyait sous les rosiers et chantait « J'ai cueilli la rose rose qui pendait au rosier blanc, je l'ai cueillie feuille à feuille dans mon beau tablier blanc. » Et tandis qu'elle détournait la tête, Samuel s'en alla. Songeuse, il y avait là de quoi l'être. Un nouvel aspect de la vie se révélait. Derrière le brouillard blanc et déchiré, des champs infinis s'étendaient sous une lumière mystérieuse. Le cœur de Zoé tressaillit en elle. Elle tendit les mains vers ce pays inconnu, ce pays de la promesse, souhaitant d'y entrer.